À la une de l'actualité, 5 ans d'inéligibilité requis en appel contre Gaston Flosse dans l'affaire de la vaisselle. Délibéré attendu le 23 mars prochain. Le Secosu tranchera dans 2 semaines entre EDT et Tevalois-Nouy. À l'issue d'une dernière réunion de travail lundi, les membres du Secosu ont été officiellement convoqués à se réunir le 23 février pour voter l'attribution du marché de la distribution d'électricité aux 4 communes du sud de Tahiti. Et puis l'UOM se veut rassurant. Les banques de la place disposent toutes d'un très bon dispositif de lutte contre le blanchiment. C'est ce qu'affirme le directeur de l'Institut en Polynésie, Claude Perrioux.
Et on démarre donc avec l'actualité judiciaire. Et 5 ans d'inéligibilité ont été requis en appel contre Gaston Flosse.
L'ancien président de la Polynésie et sa compagne Pascale Haïti comparaissaient hier devant la cour d'appel de Papeete. Un appel formulé par le parquet après la condamnation de Gaston Flosse en octobre dernier à une simple peine d'amende de 2 millions de francs CFP dans l'affaire de la vaisselle. Il leur est reproché d'avoir emporté la vaisselle de la présidence lorsque Gaston Flosse avait été démis de ses fonctions en 2014. Une affaire de détournement de biens publics. Le procès s'est ouvert sur un débat presque surréaliste entre le président de la cour d'appel et les 2 mises en cause, Gaston Flosse et Pascale Haïti, sur la propriété de la vaisselle. Pascale Haïti soutenant que la vaisselle n'appartient pas au pays, le pays n'a pas payé, a répété le couple pendant près de 20 minutes. Pas vraiment l'avis de l'avocat général José Torel. La Polynésie est propriétaire des biens, non pas par donation, mais par acquisition, a-t-il indiqué. Et c'est justement sur cet élément de donation, qui fait l'objet d'une réglementation dans la loi organique, que s'est appuyé Maître Quinquis pour défendre son client. On l'écoute au micro de Valentine Bluet.
Nous sommes poursuivis pour détournement de biens publics. Et vous l'avez entendu, Madame Haïti, nous-mêmes, contestons qu'il s'agisse d'un bien public. Et nous estimons que tant que la Polynésie française, par le Conseil des ministres, n'a pas entériné la donation de M. Sui, et Chang, eh bien cette donation est trop précaire pour être qualifiée de bien public.
Maître Quinquis a demandé la relaxe pour Gaston Flosse. Un peu plus tôt, l'avocat général avait requis 1 an de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité et 2 millions de francs d'amende. Pour Maître Quinquis, ces réquisitions sont le reflet d'une forme d'obsession de fixation à l'encontre du président Flosse.
Comme on l'a suffisamment souligné, cette affaire n'aurait jamais dû exister. Ça aurait dû faire l'objet soit d'un classement sans suite, soit d'un rappel à la loi, soit à la limite d'une comparution en CRPC, mais sûrement pas monopolisée, comme mon confrère Dubois a pu le dire, autant d'argent, de fonds publics pour le coup, et de magistrats. Il s'agit là d'une volonté délibérée de l'institution d'écarter M. Flosse de la scène politique, c'est une évidence.
Contre Pascale Haïti, il a été requis 1 an de prison avec sursis et 2 millions de francs CFP d'amende. Le délibéré sera rendu le 23 mars prochain.
Et on revient sur les réactions à la suppression du risque négligeable dans la loi Morin.
Un vote qualifié d'historique. Nous vous en parlions dès hier. Les députés ont voté jeudi à Paris la suppression de la notion de risque négligeable d'irradiation pour les victimes des essais nucléaires dans la loi Morin. Des députés qui ont également voté la création d'une commission de suivi des indemnisations à la demande du gouvernement central. Et si les parlementaires polynésiens saluaient hier une victoire complète, les associations sont plus partagées. Du côté de l'association 193, le père Auguste préfère tout de même voir le verre à moitié plein et salue cette avancée.
La première réaction, c'est quand même une réaction de joie. Il faut apprécier le moment présent, même si nous ne sommes pas naïfs. Mais lorsqu'on regarde les derniers événements, aucune association antinucléaire ne pouvait prévoir un tel avènement assez radical quand même. Par contre, nous serons très très vigilants à la création de cette commission. On aimerait bien savoir quelle est la parade qu'ils vont nous trouver peut-être. Il ne faut pas se leurrer, nous ne baisserons pas nos gardes et nous lutterons toujours.
De son côté, Roland Oldham, le président de l'association Mororoa et Tato, a plus de mal à positiver. Il rappelle que lors du vote de la loi Morin, tout le monde applaudissait. Il s'interroge évidemment sur le fonctionnement et la composition de la commission qui doit être mise en place, mais aussi sur la durée du processus.
Pourquoi ça doit prendre 12 mois? Je ne peux pas m'empêcher de penser aux élections qui doivent avoir lieu l'année prochaine. Le gouvernement socialiste à présent arrive à son fin de mandat. Alors pour moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, c'est encore une façon d'amadouer un peu les Polynésiens parce que commence à en avoir marre d'être pris pour des imbéciles tout le temps.
Autre question que pose Roland Oldham, à quoi sert désormais le CIVEN, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ? effectivement le Civen qui va se voir vidé de sa substance avec cette décision.
Autre sujet, qui de EDT ou de Tevaroanui remportera le marché de la distribution d'électricité des quatre communes du sud de Tahiti?
Réponse le 23 février. Les membres du SECO Sud sont officiellement convoqués. Et sauf retournement de situation, le président du SECO Sud, Anthony Jamet, devrait proposer la candidature de l'actuel délégataire EDT Engie. Ce marché concerne les quatre communes de Tevayuta, Taigrapu Ouest, Taigrapu Est et Hitia Otera. Le contrat doit porter sur les 17 prochaines années.
Et puis soulagement, ça roule enfin sur le pont Matatia à Punaouya.
Oui, un pont provisoire a été installé et ouvert à la circulation hier en présence du maire, du vice-président et du ministre de l'équipement. Il permet une circulation alternée sur une seule voie. Ce pont provisoire remplace la structure endommagée lors des intempéries des 21 et 22 janvier dernier. Pour ce qui est de la réparation du pont, elle devrait commencer au début du premier semestre de cette année.
Et puis fait divers, en bref, avec ce quadragénaire qui s'est noyé à Tevayuta.
L'information a été révélée hier par nos confrères de Tahiti Info. Mercredi après-midi, un homme de 40 ans est mort noyé des suites d'un malaise à Tevayuta. L'homme avait décidé d'accompagner des amis pêcheurs. Il a fait un malaise alors qu'il tentait de rejoindre le Motupuru. C'est un pêcheur qui l'a aperçu et l'a ramené sur la rive où les secours l'attendaient. Des secours qui ont tenté de le réanimer, hélas sans succès.
L'IOM veut rassurer sur le blanchiment d'argent aux Fénois.
Le commandant des forces de gendarmerie en Polynésie a récemment affirmé que l'argent que produit le trafic d'ICE se blanchit dans les banques locales. Il dénonçait ainsi le manque de contrôle des établissements bancaires de la place. Des propos tenus lors des vœux de la Sainte-Geneviève. Le problème de la drogue est effectivement très important en Polynésie, comme l'a relevé le colonel de gendarmerie, reconnaît Claude Perriou, le directeur de l'IOM en Polynésie. Il s'étonne cependant que le commandant Caudrelier pointe du doigt les entreprises et les banques locales, des propos surprenants, dit-il.
Bien sûr, ils sont surprenants parce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une concertation, mais je n'ai pas non plus tous les éléments qu'il avait en sa possession lors de cette interview. L'Institut des missions a un rôle de surveillance des établissements de crédit. Ce que nous constatons, c'est que les banques de la place disposent tous d'un très bon dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et que ce dispositif est revisité régulièrement, soit par les équipes de l'Institut des missions, soit par l'autorité de contrôle prudentiel et de règlement.
Des dispositifs qui peuvent amener l'autorité de contrôle à sanctionner des banques qui ne respecteraient pas ces dispositifs en question. Ça a été le cas en France, mais pas en Polynésie française, à ma connaissance, souligne le directeur local de l'Institut des missions d'outre-mer.
Et on termine avec le contrat de ville. Les demandes de subventions sont trop longues, trop compliquées, regrettent les petites associations des communes urbaines de Tahiti et Moorea.
Elles ont fait part de leur requête hier à la présidence, au ministre du Logement, de l'Aménagement et de l'Urbanisme, Jean-Christophe Bouissou. Pour pouvoir bénéficier pleinement du contrat de ville et monter des projets qui répondent aux besoins des habitants des quartiers prioritaires, il faudrait simplifier les démarches. Une requête relayée notamment par Naomi Tapi, membre active de l'association Hotuare Anui Afar.
Eux, ils ont une fiche de projet qu'on nous remet à nous, mais nous, les petites associations, parce que pour moi, agglomération, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ils utilisent des mots qui ne sont pas adaptés à nous, petites associations. À chaque fois, ils sont en train de nous demander des justificatifs de ça, des justificatifs de ça. D'accord, on revient et on refait. Ah, il faut que je vous... Là, à une fois, à deux fois, et on laisse tomber. Et on essaie de ramener notre pirogue.
L'association de Naomi Tapi travaille à l'insertion par l'économie et monte des projets d'animation périscolaire. Et cette année, Naomi va se battre plus particulièrement contre le décrochage scolaire. Merci d'écouter Radio 1 et Thierry FM, il est 7h39.